Évidemment, le message de l'ONU SIDA que nous supportons, bien sûr, c'est « scaling up ». Il faut passer à la vitesse supérieure et ce sont des années clés, disent-ils, pour faire la différence et donc supprimer cette épidémie ou au contraire la voir rebondir. Leur message, clairement, c'est qu'il faut plus que doubler, il faut tripler en fait le nombre de gens que l'on mettra sous traitement d'ici 2020. La réalité sur le terrain, celle des cliniciens comme nous à Médecins Sans Frontières, c'est qu'on est dans des cliniques qui sont déjà débordées. Vous savez, près d'ici, pour vous donner un exemple, une petite clinique de soins de santé primaire dans le township de Kayucha, il y en a une qui a 8000 patients sous ARV en traitement. Donc 8000 patients vivant avec le sida en traitement. Pour une petite clinique, ils ne peuvent pas faire que du sida, ils doivent faire aussi les urgences, les accouchements, soigner les différentes maladies communes, et donc tout ça avec un staff restreint. Donc la volonté de notre communiqué, c'est de dire on pourrait éventuellement passer à une vitesse supérieure, mais il faut alors changer complètement nos modalités pour délivrer les soins.
Vous parlez de la réalité sur le terrain en Afrique du Sud. Est-ce que cette réalité est similaire ailleurs en Afrique subsaharienne?
Je suis venu récemment, j'étais en République centrafricaine, et j'étais au Congo aussi, donc je connais bien ces différents pays. Bien sûr, il y a une différence. On ne peut pas complètement adapter l'Afrique australe, qui a donc des prévalences très élevées, et donc partout, Zimbabwe, Malawi, c'est la même image, avec des files énormes de gens qui attendent dans la file d'attente tous les mois au centre de santé pour avoir leur traitement. Dans les pays à basse prévalence, à relativement basse prévalence, comme l'Afrique de l'Ouest, comme la République démocratique du Congo, il y a moins de files, mais il y a aussi beaucoup moins de prestataires. Pas toutes les cliniques sont équipées, formées, pas tout le staff pour faire ce genre de service. Et donc, on retrouve en général, la même congestion, oui.
MSF préconise ce qu'elle appelle les modèles communautaires. Qu'entendez-vous par là?
Ce qu'on entend par les modèles communautaires, en fait, c'est très simple. C'est de donner aux patients vivant avec le VIH une plus grande responsabilité dans la délivrance de leurs soins et dans l'observance de leur traitement. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est que dans nos modèles de santé, je parle ici du service public en général, c'est vrai dans l'ensemble de l'Afrique, on confond le besoin de faire une consultation clinique avec la délivrance des médicaments. Pourquoi ? Parce que on n'a pas à disposition un système pour délivrer les médicaments à la maison. Pour vous donner un exemple, un patient qui est séropositif dans le service public en Angleterre, eh bien, ils ou elles recevront leurs médicaments à la maison tous les mois, envoyés par la poste rapide, alors que une fois que le traitement a été bien pris, après quelques mois, les malades en général sont stabilisés, donc leur besoin de consultation clinique est beaucoup moindre. Ici, on mélange les deux. Donc, on fait revenir les patients tous les mois pour les réapprovisionner en médicaments. Ils font la file, ils attendent toute la journée. Potentiellement, ils vont s'infecter avec d'autres patients. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que il faut trouver des systèmes où, en fait, les patients n'ont plus besoin de venir aussi régulièrement à la clinique et ils vont s'organiser entre eux avec un appui éventuellement de la clinique qui est responsable de cette aire de santé. Ils vont s'organiser entre eux pour redistribuer les médicaments tous les mois et seuls ceux qui ont un besoin clinique viendront donc pour une consultation.
En impliquant les patients davantage dans leur traitement, on les responsabilise davantage?
Tout à fait. C'est un modèle qui est étudié déjà pour d'autres maladies, qui est bien connu, par exemple pour le diabète. Effectivement, c'est une manière de les responsabiliser. Il faut s'assurer que le patient comprenne très bien de quoi il s'agit et donc qu'il comprenne exactement les modalités et du traitement, donc quand prendre leur pilule, mais aussi de la surveillance du traitement. Alors, par exemple, nous avons introduit une méthode de surveillance qui est ce qu'on appelle la charge virale. Donc c'est la mesure du nombre de virus par millilitre de sang et mesure qui est complètement courante dans les pays développés mais qui était encore exceptionnelle en Afrique. Et en fait, ce que nous faisons, c'est de former les malades pour qu'ils comprennent exactement de quoi il s'agit et que ce soit eux qui en aient la responsabilité, qu'ils aient la responsabilité de demander aux cliniciens quand il est temps, parce que c'est à des temps réguliers, quand il est temps de prendre du sang pour faire cette mesure, c'est à eux de demander et s'assurer qu'ils reviennent par la suite et demander les résultats et qu'eux-mêmes comprennent les résultats. Donc, effectivement, comme vous le dites, nous pensons, et ça a été démontré dans d'autres maladies, que c'est une manière de les responsabiliser par rapport à leur traitement.
L'Internet et les téléphones mobiles peuvent être mis au service de la lutte contre le VIH-Sida. Comment ?
L'Internet, c'est encore exceptionnel. Hein. Dans la plupart des zones rurales, il y a l'accès à l'Internet très, très limité. Le téléphone mobile est beaucoup plus large et donc nous faisons effectivement différents programmes pilotes où l'on envoie, je vous parlais de la charge virale, eh bien l'on envoie un SMS au patient en question pour lui dire, il ou elle, votre charge virale est correcte, donc indétectable, ou il y a besoin de revenir à la clinique. Donc on utilise déjà la téléphonie mobile pour transmettre des messages et garder le contact avec les patients, aussi pour retrouver des patients perdus de vue. Ce n'est pas sans problème, je vous avoue. Il y a évidemment un problème de confidentialité parce que beaucoup de gens en Afrique partagent le téléphone mobile. Et donc, il faut s'assurer que les messages soient cryptés de telle façon que seule la personne concernée puisse le comprendre.
Quels sont les principaux défis que rencontrent vos malades quand ils se confient à vous ? Ça fait quand même plusieurs décennies que l'on a lancé la lutte contre le VIH-Sida. Quels sont encore certains des défis que les patients d'Afrique francophone rencontrent ?
En Afrique francophone, on est en général dans des pays à faible prévalence. Et donc là, la stigmatisation est encore très importante. Faible prévalence veut dire haute stigmatisation. Alors que l'on voit des malades régulièrement venir avec des t-shirts disant HIV positif ici en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, ça n'existe pas. Malheureusement, la stigmatisation reste importante. Les gens ont tendance à se cacher. Donc quand nous les poussons à s'organiser en groupe, c'est plus difficile parce que ça implique inévitablement de divulguer son statut aux autres personnes du groupe. Nous sommes convaincus, et nous le faisons à Kinshasa comme à Conakry, nous sommes convaincus que c'est une manière de les aider, partager le poids psychologique de cette maladie. Ça a été démontré, c'est certainement une bonne manière de les aider. Mais malheureusement, ce n'est qu'une petite minorité qui accepte de partager leur statut. Autre difficulté, typique de l'Afrique francophone, c'est le système de paiement. Malheureusement, dans la plupart des pays francophones, il existe peu d'exceptions, c'est le cas certainement des pays que je vous ai cités, eh bien, le personnel de santé n'est pas payé, ou est peu payé, disons. Et donc, la pratique, c'est que on demande une contribution au malade. C'est ce qu'on appelle le recouvrement des coûts. Alors, on a dit qu'il fallait faire des exceptions pour le sida, c'est une des conditions du Fonds mondial, les médicaments sont gratuits, mais alors l'imagination est sans limite pour faire payer les tests, pour faire payer la consultation, pour faire payer le carnet de santé. Inutile de dire, pour des maladies chroniques, un système de paiement comme celui-là est une barrière énorme à l'adhérence à long terme. Nous essayons de trouver des solutions, mais je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle parce que de l'autre côté, les prestataires nous disent « si vous ne trouvez pas une compensation, nous ne sommes pas intéressés ».
Vous, en tant que médecin qui observez cette pandémie de VIH-Sida, est-ce que vous avez des recommandations à vos malades qui restent valables ?
Les recommandations que nous faisons à nos malades, c'est d'essayer au maximum de les faire comprendre les enjeux de cette maladie, les moyens pour briser la stigmatisation et comment se rendre la vie la plus normale possible. Il faut idéalement que ces malades, puisque c'est un traitement à vie, comme vous le savez, que ces malades puissent reprendre leur vie active, puissent retourner au travail et éventuellement même partager leur statut avec d'autres pour que la charge psychologique soit moins grande. Alors, nous essayons d'adapter les services de santé, c'est ça ce que nous voulons dire par des services qui sont organisés autour du malade. Nous essayons de les adapter pour avoir des exigences de présence les moindres possibles pour diminuer la stigmatisation et aussi pour leur donner des traitements qui sont les plus faciles à prendre. Nous poussons très fort à MSF maintenant pour qu'il existe un traitement qui est utilisé largement en Afrique australe. Ici en Afrique du Sud, c'est le traitement quasi exclusif aujourd'hui pour les adultes. C'est une seule pilule à base de tenofovir et d'efavirenz, une seule pilule une fois par jour. Malheureusement, en Afrique francophone, encore souvent, on a un traitement à base d'AZT qui doit se prendre deux fois par jour et bien souvent avec des pilules séparées. Et tout ce genre de barrières, évidemment, complique l'observance du traitement.
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Les services publics n'ont jamais été confrontés à de tels enjeux. On parle de millions de malades sous traitement à vie. Ils n'ont jamais fait ça. Non, jamais. Le plus long qu'on ait traité, c'était pour la tuberculose, dans lequel la tuberculose résistante, 6 mois. Mais ici, garder des malades à vie avec des cohortes donc de malades qui ne font qu'augmenter, puisqu'on en détecte tous les jours plus, c'est un enjeu énorme pour les services de santé. Et l'on voit avec le temps une baisse de qualité. Malheureusement, parce que les nombres cassent la qualité. Les malades responsabilisés doivent jouer un rôle, et un rôle important, pour alerter les pouvoirs publics quand il y a des ruptures de stock. Nous faisons, par exemple, ici, un système de surveillance en Afrique du Sud pour les ruptures de stock. Elles sont courantes, les ruptures de stock, dans les services publics. Or, l'on sait bien qu'un malade qui est sous ARV ne peut absolument pas arrêter ses doses, il va développer des résistances, même quelques jours d'arrêt. Et donc, il y a des fonctions de surveillance, des fonctions d'appui, des fonctions d'alerte, je dirais, que les groupes de malades doivent absolument en avoir la responsabilité. Malheureusement, l'on voit aujourd'hui que les financements qui étaient prévus pour ces organismes, et un qui est très connu, c'est Treatment Action Campaign, TAC, ici en Afrique du Sud, qui a été celui qui a réussi à faire changer complètement le gouvernement d'avis. Malheureusement, ces groupes qui déjà n'étaient pas très nombreux, qui étaient financés ici et là par différents bailleurs de fonds, eh bien on voit que ces financements s'assèchent complètement. Et donc nous disons, sans un droit de regard des patients eux-mêmes, sans une possibilité de lancer l'alerte et de faire pression pour améliorer les services de santé, malheureusement, on ne va pas y arriver. Et donc pour cela, les financements sont indispensables. Il est très dommage qu'ils s'assèchent aujourd'hui.